suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour les auditeurs de Radio MDM. Eh bien aujourd'hui, voilà une émission tout à fait différente des précédentes puisque je me trouve en présence donc du délégué pour les Landes d'une association reconnue d'utilité publique, Maison Paysanne, et donc son nom est Didier Deschamps. Il va se présenter, mais sachez d'ores et déjà que cette association, Maison Paysanne, c'est exactement l'association de sauvegarde du patrimoine bâti rural et du paysage. Alors tout un programme dont va nous parler Didier Deschamps. Il s'agit de patrimoine, il s'agit de sauvegarder les traditions rurales, il s'agit de sauvegarder également le paysage. Beaucoup de travail, donc tout un programme. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour. Je suis donc ravi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. En ce qui concerne mon parcours, moi je viens du génie civil. Je suis ingénieur, d'abord diplômé en eau, mais aussi en génie civil. Et j'ai vu beaucoup de béton, des châteaux d'eau, des usines. Et j'ai travaillé aussi un peu dans la construction de maisons individuelles. Et puis un beau jour, j'ai vu autre chose qui m'a interpellé. Ce sont nos vieilles maisons, nos maisons rurales, nos maisons de pays ou nos maisons de paysannes en fait. Et là, j'ai découvert un autre monde qui m'a beaucoup plu en fait parce que il y a une histoire, il y a un matériau, il y a un paysage, il y a tout un ensemble de choses qui plaisent à l'œil. Et donc, je me suis intéressé à ce domaine et je me suis investi un peu là-dedans. C'est-à-dire que je me suis reformé dans autre chose que le ciment, la laine de verre, mais plutôt la chaux, le bois, la paille, la terre. La terre qui est en fait qui est de l'argile. Et j'ai découvert dans les Landes, en fait, un beau patrimoine avec différents pays. En fait, c'est mon prédécesseur, Albert Châtaignier, qui avait déjà travaillé beaucoup là-dessus. C'est quelqu'un qui, a fait un investissement considérable, je dirais, parce que je me retrouve avec une magnifique gravure sur les maisons landaises, en fait, avec une douzaine de pays. Alors les Landes, en fait, c'est riche en pays parce qu'on connaît la Grande Lande, mais on connaît aussi la Chalosse, mais il y a de nombreux petits pays, ne serait-ce que les Petites Landes ou le Gabardin, le Bas d'Armagnac, le Tursan, en plus de la Chalosse évidemment, mais aussi tout le littoral qui commence avec le pays de Borne, le Marensin, le pays de Marennes, mais aussi des tout petits pays comme le pays d'Orthe, voilà. Et puis même un pays tout à fait, curieux, c'est le pays autour de Morsinx, le Brassinx. Et donc je trouve dans ces différents pays un patrimoine bâti. Alors souvent en bois, mais aussi en garluche, avec des fois de la pierre, évidemment, plutôt en chalosse et dans le tursan. Et je me rends compte que ce patrimoine, des fois, il vieillit mal. Depuis que j'ai investi ce domaine, je me suis intéressé donc avec une association qui s'appelle Maison Paysanne de France. Et là, j'ai découvert des gens qui connaissent déjà très bien le patrimoine de France, le patrimoine bâti. Et je découvre donc tout ce patrimoine qui, finalement, nous interpelle parce que souvent il est en mauvais état. Alors, en tant que délégué maintenant de maison paysanne, les gens m'appellent souvent parce qu'ils ne savent pas restaurer leur maison comme il faut. Ils découvrent que les murs ont été crépis avec du ciment, que souvent ils se décollent, que ces murs-là sont froids et humides. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, mais qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de sauvegarder ce patrimoine avec des artisans qui connaissent, il y en a quelques-uns quand même, des maçons à la chaux, des charpentiers à l'ancienne, qui connaissent quand même ce travail-là, qui demandent une autre approche, en fait, avec d'autres matériaux, donc plutôt la chaux, plutôt la laine de bois, maintenant. Ce sont des matériaux que l'on trouve qui remplacent très bien la laine de verre, qui sont beaucoup plus écologiques, naturels, mais aussi avec des matériaux comme la terre.
Effectivement, le département des Landes est riche en différents types de maisons, ce qui est normal parce que c'est une création historique, le département des Landes. Il a été créé en 1789 et que toutes les petites régions qu'il a agglomérées étaient des petites régions historiques qui appartenaient à d'autres entités. Donc, on a réuni tout cet ensemble, avec beaucoup d'hésitation d'ailleurs, hein, et on en a fait le département des Landes, de même que, évidemment, dans d'autres départements de France, cela s'est passé de la même façon. Alors, effectivement, il y a une grande variété, mais oui, vous avez raison, il faut préserver cette richesse et cette diversité, et malheureusement, elle disparaît petit à petit. Alors, quels sont les objectifs de l'association Maisons Paysannes de France ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que Maisons Paysannes de France est une association reconnue d'utilité publique, qui est nationale, qui a 50 ans d'expertise du patrimoine rural, avec un réseau de 80 délégués départementaux. En fait, moi je suis délégué des Landes, mais je m'aperçois que tous les départements ne sont pas pourvus, et notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, où on m'appelle aussi, et où je vais quand les gens me sollicitent. Alors, Maisons Paysannes, donc, il y a environ 400 bénévoles prêts à partager leur savoir et leur expérience, dont je fais partie aujourd'hui. J'apprends encore quand c'est un peu compliqué. Je fais appel à un ami qui est expert, mais le plus souvent, bon, ce sont des choses assez basiques qui nous interpellent. Alors, tout d'abord, c'est essayer de préserver et de valoriser le patrimoine rural bâti et paysager, c'est-à-dire que ce patrimoine bâti, il faut qu'il s'intègre bien dans le paysage avec les couleurs, les formes que l'on a déjà souvent, sans le savoir, dans les villages, dans les aériales, puisque les Landes sont composées, notamment la Haute-Lande, de pas mal d'aériales. Et donc les gens m'appellent quand ils sont perdus dans cette affaire-là. Bon, le plus souvent, les maisons sont froides et humides. En fait, le bâti ancien est très agréable l'été, parce que les maisons sont fraîches, mais l'hiver, c'est vrai que elles sont froides et humides, parce qu'elles ne sont pas isolées. Et donc, trouver le moyen d'isoler sans non plus dénaturer ce paysage. On peut le faire aujourd'hui avec des méthodes modernes, avec des techniques et des matériaux comme la laine de bois, comme la chaux, comme la terre, et même la paille. Souvent on fait des isolations à l'intérieur, au moins des corrections thermiques en terre paille allégée, c'est-à-dire qu'on mélange de la terre, qui est en fait de l'argile, avec de la paille, et on vient mettre ce matériau contre les murs à l'intérieur qui annule, en fait, ou inhibe l'effet de paroi froide, en fait, qui est ressenti souvent comme quelque chose de peu agréable, en fait.
Alors aujourd'hui, puisque vous parlez notamment des matériaux de l'isolation, quand on prend une maison paysanne traditionnelle, donc de l'habitat rural, et que l'on veut quand même l'isoler parce qu'on trouve qu'il fait vraiment un petit peu froid ou un petit peu chaud, il y a des erreurs à ne pas commettre, parce que nous sommes actuellement liés à cahier des charges quand même assez strict. Il y a un calendrier qui a été annoncé par les instances officielles, un calendrier d'isolation des maisons en général. Alors comment ça fonctionne avec les maisons traditionnelles rurales ?
Alors d'abord, ce qu'on essaye d'éviter, c'est la laine de verre, tout simplement parce que la laine de verre, non seulement c'est un matériau qui n'est pas très écologique, mais en plus, on s'est aperçu que c'est un matériau qui est tellement léger que la chaleur ou le froid passe très vite à travers. Et aujourd'hui, pour les maisons modernes qui sont très confortables l'hiver, ce sont des vrais cocons, mais l'été, on peut dire que des fois c'est des fours, parce que la laine de verre, elle isole, d'accord, mais l'été, la chaleur passe très vite à travers, et en plein après-midi, eh bien on a chaud dans la maison, et même très chaud. Alors, l'idée, c'est de mettre toujours un isolant, mais un isolant un peu plus lourd qui va avoir de l'inertie afin de permettre à la maison de rester fraîche beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que la chaleur va passer moins vite, par exemple, à travers de la laine de bois, qui est un matériau donc plus proche des matériaux lourds des maisons anciennes, qui va faire cette fameuse inertie et qui va faire ce qu'on appelle un déphasage, c'est-à-dire que la chaleur ne passera pas avant la fin de l'après-midi. On pourra ouvrir la maison pour la rafraîchir dans la soirée et non pas, en fait, avoir cette chaleur qui rentre dès le début de l'après-midi. Voilà, c'est un principe fondamental. Alors, pour isoler ces vieilles maisons, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, par l'extérieur, c'est un peu compliqué. Parce qu'on dénature l'architecture, en fait. Mais on peut quand même l'isoler par l'intérieur. Et donc, avec ces isolants, la laine de bois, mais aussi, ça peut être très bien de la laine de mouton. On peut mettre toutes sortes de matériaux, notamment le métis aussi, qui est un coton recyclé. La ouate de cellulose. Bon, il existe donc toute une panoplie de matériaux qui vont très bien et qui peuvent fonctionner dans ce patrimoine-là. Alors c'est vrai que pour le bâti ancien, on fait plus appel à la correction thermique, ce qu'on appelle, puisque quand même le mur de la maison ancienne est quand même un mur lourd, souvent en pierre, et il emmagasine un certain temps le chaud ou le froid, et donc ensuite eh bien éviter que cette paroi rayonne chaud ou froid. Avec un isolant, c'est très bien et les gens sont satisfaits en principe lorsque on vient faire ce type d'isolation qui n'en est pas une forcément comme les maisons neuves, mais qui est très satisfaisante en fonction de ce bâti ancien. Je précise quand même que le bâti ancien est frais l'été parce que ces maisons, elles respirent et parce que souvent l'humidité qui s'est accumulée dans les murs l'hiver, en fait, est qui respire, et donc il faut qu'elle, cette humidité, qu'elle s'évapore. Et en fait, elle s'évapore l'été, et du coup, elle rafraîchit la maison. En fait, on s'est aperçu de ça il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça que ces maisons restent fraîches. Et donc, il faut garder aussi cet aspect-là.
Alors maintenant, nous allons passer à la petite pause musicale. Est-ce que vous voulez nous expliquer quel morceau vous avez choisi de présenter aux auditeurs, et pour quelle raison, peut-être, vous l'avez choisi ?
Alors, j'ai choisi un morceau de musique traditionnelle, landais. Il s'avère que le pas de 4 de Luxeuil me plaît beaucoup et qui fera plaisir aussi à monsieur le maire de Luxeuil, Serge Sor, que je connais, qui est aussi dans cette mouvance-là de musique et de danse traditionnelle. Et donc, je dédie ce morceau, en fait, qui vient de Verde Blue, un groupe de musique traditionnelle et aussi en occitan, voilà, en patois gascon.
Eh bien, merci, on va l'écouter ensemble.
Yo le ro ra, 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 y
revoici donc dans le second volet de cette émission des Landes et ma nature, qui est consacrée à l'association Maison Paysanne de France, dont le délégué Didier Deschamps est devant moi actuellement. Nous avons parlé tout à l'heure de son parcours, des objectifs de cette association, ainsi que des différents matériaux que l'on peut utiliser pour préserver le patrimoine bâti rural traditionnel. Maintenant, dans ce second volet, nous allons aborder la question de la grande diversité des maisons landaises traditionnelles, qui s'accompagnait très souvent d'un petit patrimoine rural comme par exemple le four à pain ou bien le poulailler. Et nous allons évoquer aussi quelques exemples d'interventions d'associations pour des auditeurs qui pourraient être intéressés. Les différentes techniques d'enduit ou de construction ou d'isolation se valent-elles toutes dans le bâti ancien ?
Eh bien, donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus la laine de verre que la laine de bois. Bon, ceci étant, on arrive aujourd'hui à faire la différence et à revenir vers ces matériaux anciens. Alors, c'est vrai que dans les Landes, il y a beaucoup de bois. On préconise la laine de bois puisqu'on a du bois, mais on peut avoir aussi de laine de coton. On peut aussi avoir du chanvre, toutes ces pailles, toutes ces matières qui ont peut-être un peu disparu, mais qui reviennent. Bon, on trouve aussi de la ouate de cellulose. Il faut savoir qu'on peut isoler avec des matériaux naturels aujourd'hui, à prix raisonnable. On en trouve dans la grande distribution. On en trouve aussi chez les agriculteurs, la paille tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Landes aujourd'hui, il y a des maisons qui sont construites en paille. On revient un peu à des fondamentaux. Les maisons landaises, c'est vrai qu'elles sont le plus souvent en bois et en torchis, sauf dans le sud des Landes où il y a un peu plus de pierre, ou dans le pays de Borne où on retrouve la garluche. Ce sont des matériaux qui ont besoin d'entretien, forcément. Le bois, bon, j'ai vu un exemple à l'Encoac où la charpente avait bougé, c'est-à-dire que la ferme était un peu tombée, une des fermes, et le tenant mortaise, on commençait à le voir. Et donc ça peut être inquiétant, mais la maison avait 200 ans, et finalement, elle a tenu 200 ans, elle tiendra encore quelques années, et puis si elle est bien restaurée, eh bien, elle continuera comme ça. Ces maisons, elles sont jolies, bon, mais c'est vrai qu'elles demandent quand même pas mal d'entretien. Lorsque, un enduit a été fait par-dessus le torchis, par exemple, eh bien, il faut savoir que cet enduit, il faut quand même y mettre un badigeon dessus. Et que le badigeon, eh bien, il faut le renouveler un peu plus souvent qu'une peinture. Un badigeon, c'est plutôt tous les 5 ans. Mais c'est quand même relativement vite fait, c'est quand même peu coûteux. Mais il faut y penser. Et donc, si on veut une maison bien entretenue, eh bien, comme tout, il faut trouver aussi les bons artisans. Il y en a peu, mais il y a des techniques que nous, on peut montrer aussi. On fait quelquefois, à l'occasion de manifestations, de journées du patrimoine, le marché bio des Landes, on fait des journées où on fait des démonstrations. Et puis, on peut organiser aussi des moments chez quelqu'un, par exemple, qui restaure sa maison. On fait un chantier participatif, par exemple, il y a un enduit à faire sur un mur, il faut des bras. Et là, à ce moment-là, eh bien, si les gens veulent apprendre, c'est le moment. C'est très intéressant parce qu'on utilise des matériaux naturels, comme la terre, tout simplement. La terre, c'est l'argile que l'on peut mettre sur les murs. Alors, si c'est à l'extérieur, effectivement, il vaut mieux de la chaux, mais on peut quand même faire des mélanges avec de la chaux, du sable et un peu d'argile, et à l'intérieur, on peut faire qu'à l'argile, en fait. C'est quand même des matériaux qui respirent, qui nous amènent cette fameuse perspirance des murs, et qui font les échanges gazeux, et qui font que la maison est agréable à vivre, parce que l'humidité, elle s'en va, en fait, par ces murs, par les matériaux. Il faut le savoir, je pense que c'est important, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Donc, même s'il s'agit de la pierre, en fait, la pierre, il faut qu'elle évacue l'eau, qui remonte souvent par capillarité, parce que ces maisons-là, elles n'ont pas de fondation, il n'y a pas de béton au fond. Et donc, l'humidité, en fait, qui a tendance à remonter dans les murs, il faut qu'elle s'évacue. Et il faut que les murs soient enduits de chaux et non pas de ciment, qui, lui, est imperméable, en fait. Voilà, et souvent, c'est un peu dramatique. Souvent, ben, il faut décrouter, il faut enlever le ciment et mettre de la chaux à la place, malheureusement. Mais quand même, on a les moyens de faire ça, et puis de revenir un peu plus, d'ailleurs, à ce qui était fait à l'époque, et comment dire, avoir aussi, comment dire, la chance, enfin, ou tout au moins l'envie de ces matériaux-là qui nous apportent quand même un bien-être beaucoup mieux. Aujourd'hui, le bâti ancien, c'est un peu comme le bio, c'est-à-dire qu'on revient à des fondamentaux qui nous amènent quand même une autre façon de vivre et une autre façon de, voilà, de profiter surtout des matériaux qui sont finalement à notre portée, la paille, la terre, on l'a sous la main.
Alors justement, puisque vous parlez de tout ce qu'on a sous la main, on peut préciser que les maisons traditionnelles, pendant des siècles en tout cas, jusqu'au début du XXe siècle, ont toujours été réalisées avec des matériaux locaux, c'est-à-dire avec ce que l'on trouvait sur place. C'est donc une façon de s'ancrer dans son environnement, à la fois en utilisant les ressources du sol ou du sous-sol, et puis en utilisant aussi, bon, de façon parcimonieuse quand même, les ressources de l'environnement, le bois notamment. Et donc c'est d'ailleurs aussi un des objectifs de votre association que de préserver le paysage, puisque maison et paysage, habitat et paysage, ça va ensemble. Alors est-ce que vous auriez quelques exemples précis d'interventions de maisons paysannes que vous avez menées dans ce département ?
Eh bien, en gros, ce département, c'est deux régions, enfin, c'est beaucoup plus que ça, hein, ce sont des pays, mais on peut dire qu'il y a fondamentalement deux régions. Le nord, qui est plutôt effectivement du sable, mais dans lequel on trouve aussi de l'argile, et puis le sud, qui est beaucoup plus argileux, mais où on trouve aussi de la pierre. Et donc, ces deux régions, en fait, assez curieusement, séparées par la Dour, ont chacune leur identité. Et si on peut dire que le nord de la Dour, eh bien, ce sont des maisons à pans de bois. C'est beaucoup de bois, le remplissage est fait en torchis. Alors aujourd'hui, on fait du torchis moderne, c'est plus forcément de la paille et de la terre. Ça peut être de la chaux et du chanvre, du béton de chanvre. Mais on peut quand même revenir avec de la paille et de la terre. On peut comment dire, mettre de la brique, puisque même dans la Haute-Lande ou dans la Grande-Lande, on retrouve des maisons en brique. Il y a dans la Grande-Lande de l'argile, en fait. On la voit moins, c'est vrai, mais on le sait, puisqu'il y a des briques. Il y a eu des briquateries, des tuileries, on en voit notamment entre les colombages des maisons, souvent. Alors peut-être plus côté littoral, des maisons dont le remplissage entre les colombages est fait de briques en épi. Voilà, tout simplement, bon, il faut reprendre ces matériaux-là, il faut se les approprier, revenir sur ces fondamentaux, bon, qui semblent fragiles, mais qui sont quand même durables si on y fait attention, si on les entretient. Alors dans le sud, on trouve quand même autre chose, c'est plutôt de la pierre, des maisons qui sont bâties en pierre, avec comment dire, une autre architecture qui est un peu plus, comment dire, un peu plus peut-être basique, si on peut dire. On ne retrouve pas tous ces colombages, on trouve des toits de pente quand même, quelques toits quatre pentes, notamment dans le Tursan. Souvent, c'était quand même des maisons de maîtres, mais comment dire, on retrouve en fait le plus souvent avec, même dans les maisons paysannes, la maison à l'ancienne avec la grande porte au milieu, où on rentrait avec la charrette et puis l'habitat d'un côté et les tables de l'autre en fait. Et ces maisons quand même, c'est vrai qu'elles sont dans la campagne, on ne les voit pas forcément. Elles sont un peu perdues dans le paysage, ce qui est très bien d'ailleurs pour justement se fondre dans le paysage. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est conseiller les particuliers qui achètent aujourd'hui ces maisons-là de façon à ce que leur restauration soit faite de la meilleure des façons, en gardant les formes, les couleurs, les choses qui plaisent à l'œil.
Concrètement, qu'est-ce que vous avez été amené à faire, hein, voilà, en pratique, par rapport à une personne qui vous appelle à l'aide ?
Alors, lorsque l'on va conseiller une personne. En fait, on fait une visite conseil, c'est-à-dire que l'on va faire le tour de la maison, regarder l'extérieur, le toit, les éventuels dégâts qu'il peut y avoir. Ensuite, eh bien, c'est l'intérieur, le rez-de-chaussée, la charpente et l'étage, hein, s'il y en a un. Par la suite, donc, suivant ce que veut faire la personne, on lui propose des artisans qui sont susceptibles de faire les travaux dans les règles de l'art, bien sûr. Et à chaque fois, lorsqu'il y a des étapes, on visite, on conseille, on poursuit, on continue à voir le travail qui est fait. Et effectivement, ça nous est arrivé dans un exemple à Sobrig, chez Jean-Pierre et Chantal, un couple de Belges qui ont acheté une exploitation faite de kiwi avec une très belle maison. Et ils ont restauré la partie grange, pressoir, avec ce que je dirais les meilleurs artisans possibles, puisqu'il y avait un compagnon charpentier qui est venu là, un maçon qui est venu même de Bretagne, avec un procédé de projection de béton de chanvre pour isoler l'intérieur. Et j'avais trouvé d'ailleurs ce chantier très intéressant. Et je l'avais fait visiter d'ailleurs à d'autres personnes qui souhaitaient voir un peu comment se passe un chantier. Nous avions fait une visite à un moment donné. Et cette maison, ce bâtiment a été fini avec des enduits par un artisan de la côte basque qui est venu donc terminer avec des enduits à la chaux à l'extérieur. Et on a trouvé que c'était un très beau rendu. Alors c'est vrai que cette maison méritait, enfin ce bâtiment méritait des artisans compétents, parce que souvent les murs ne sont pas droits, parce que les pierres sont abîmées, parce que il y a un savoir-faire. Quand il faut enduire un mur d'une maison ancienne, eh bien, c'est pas un enduit monocouche comme on voit sur une maison neuve, c'est un enduit trois couches. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent, eh bien, il faut mettre ce qu'on appelle un gobelet pour accrocher le crépi sur la pierre. Ensuite, il faut faire un enduit de corps et après un enduit de finition. C'est vrai que c'est assez long, ça demande du temps. Il faut le faire dans les périodes favorables, souvent au printemps ou à l'automne, parce que l'été, c'est trop chaud, l'hiver, c'est trop froid. Bon, c'est vrai que c'est contraignant, mais le résultat, en fait, nous satisfait et nous fait plaisir à voir et à faire, à montrer. Et répondre des fois à des prix, ça peut faire l'objet d'une récompense en fait par Maison Paysanne et par les partenaires que nous avons.
Très bien. Alors, je pense que d'abord, il serait nécessaire évidemment que dans toutes les communes du département, il puisse y avoir un inventaire quand même détaillé de l'ensemble du patrimoine bâti rural pour essayer au moins de le sauvegarder, hein, ce serait vraiment nécessaire. Ça se fait notamment sur l'ensemble du parc naturel régional, qui a un chargé de mission qui s'en occupe depuis déjà plusieurs années. Mais il faudrait évidemment l'étendre. Par ailleurs, eh bien, tous les auditeurs qui seraient intéressés par la participation, par exemple, à cette association Maison Paysanne de France, ou tout simplement qui ont besoin d'un conseil, peuvent donc vous appeler au téléphone.
Alors, les gens qui le veulent, évidemment, peuvent m'appeler chez moi au 05 58 79 88 07, mais aussi me trouver sur le site de Maison Paysanne, avec mon email et puis un autre téléphone d'ailleurs. Et donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition et je me ferai un plaisir de vous accompagner.
Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations super intéressantes. Adi Schatz aux auditeurs.
Adi Schatz.
C'était les Landes et ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.